Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Qui était le Rému Vosgien ? Qu'est-ce que l'esprit de Bussan, l'esprit du théâtre du peuple ? À quoi ressemble le fond de scène de ce théâtre ? Scène entrouverte ou grande ouverte ? Direction la ligne bleue des Vosges, là où nous étions le 12 août 1978 sur France Culture, mais rien n'a changé depuis cette époque, là où les gens du village se costument, là où le mélange de professionnels et d'amateurs est une réussite, là où, il y a bien longtemps, Antoine, Jules Renard, Gémier, Copeau, Dulin se rendaient et avouaient leur plus haute considération pour le créateur de ce théâtre, Maurice Potcher. Comme le disait Louis Jouvet, c'est un sacré boulot qu'a fait Potcher à Bussang.
Festival au village, aujourd'hui à Bussang, dans les Vosges.
Bussang, commune des Vosges, 2058 habitants, altitude 734 mètres. Le train ne va pas plus loin, il se heurte à la ligne bleue des Vosges. À l'est, là-haut, c'était avant 1918 la frontière allemande. Au sud, le ballon d'Alsace. Et au nord, eh bien, des sapins à perte de vue. Et à 50 km, le lac de Gérardmer. Mais Bussang, c'est autre chose, et unique au monde. C'est là qu'en 1895, un poète, Maurice Potcher, a créé le premier théâtre du peuple. Un théâtre pour tout le monde, où tout le monde pouvait jouer, amateur et professionnel. Un théâtre où tout le monde se reconnaissait sur la scène. Nous sommes allés un dimanche à Bussang, Brigitte Bouvier et moi-même Jacques Florent. Nous sommes tombés en plein drame. Oh, pas seulement celui qui se jouait sur la scène du théâtre, non. Le drame de la survie du théâtre du peuple. Je sais bien, c'est à la mode aujourd'hui, tout le monde veut travailler pour le peuple, avec le peuple. Jacques Kramer promène dans l'Est sa petite minette de Lorraine, exprimant les malheurs des ouvriers, surtout d'ailleurs ceux de la sidérurgie qui est si menacée en ce moment. Bernard Mounier a composé des spectacles avec des ouvriers des usines du Havre. Dans les Deux-Sèvres, à Hervaux, des amateurs actuellement font revivre Victor Hugo. Et en Avignon, cette année, de multiples troupes, occitanes ou pas, se sont essayées à se mêler au public. Maurice Potcher, c'était autre chose. D'abord, c'était le premier, l'inventeur du théâtre populaire. Les grands, Villard, Dulin, Copeau, Antoine, ne s'y sont pas trompés. Mais surtout, Potcher ne faisait pas lui intervenir la lutte des classes. Le peuple, pour lui, c'était n'importe qui, ouvriers, patrons, artistes et bourgeois, quelles que soient leurs idées, leur religion. Il a laissé une œuvre, injouable, vieillotte, disent certains, et l'esprit de son œuvre est contesté aujourd'hui. Oh, Potcher racontait simplement des histoires très simples, capables de toucher, d'émouvoir n'importe qui. Et c'est cela dont on ne veut plus. Aujourd'hui, la moindre pièce doit exprimer de grands desseins, de préférence actuelle, le pouvoir politique, la révolte des jeunes, la libération des femmes, etc. Alors, le théâtre du peuple, le vrai, va-t-il disparaître ? On joue maintenant à Bussang le Roméo et Juliette de Shakespeare. Nous avons assisté à la représentation en présence de Frédéric Potcher, le neveu du fondateur.
J'y reviens tous les ans, bien entendu, et je n'y entre jamais sans sentir un petit pincement.
Au cœur ?
Oui, parce que je revois là tous les gens de la famille.
Oui.
Je revois mon père, qui a été un merveilleux acteur. Je revois mon oncle lui-même, qui était un acteur à la fois comique, qui jouait les raisonnables et les comiques pincés. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mon père avait un don tout à fait extraordinaire de présence. Il était à la fois tragique et il pouvait être très comique. On l'appelait d'ailleurs, à la fin de sa vie, quand il a joué ici, on l'appelait le Rému Vosgien. Et c'était tout à fait ça. Alors dès qu'il paraissait sur la scène, vous savez, il occupait le public par sa seule présence. Il n'y pouvait rien, il n'avait aucune mémoire, il n'avait aucun don comment dirais-je, il n'était pas capable d'apprendre complètement un rôle parce qu'il n'avait aucune mémoire et qu'il s'énervait. Alors il y avait entre les deux frères, le fondateur du théâtre, mon oncle Maurice, et mon père, des scènes absolument incroyables, où mon père se mettait quelquefois à crier en disant à son frère « Comment veux-tu que je dise une réplique pareille? Tu n'as qu'à écrire tes rôles un peu simplement et tu verras que ça ira beaucoup mieux. » Alors il y avait des scènes extraordinaires entre ces deux frères qui étaient, c'était très touchant. Le poste de souffleur était occupé par ma mère. Ma mère était d'origine alsacienne, protestante, d'une famille assez stricte. Et lorsqu'elle a épousé mon père était très pot de chair, vous savez, c'était un homme dur, rude, un démocrate, très doux, très gentil, mais sévère. Et mon grand-père voulait que ma mère joue. Ah, vous entendez, c'est le gong du spectacle, ça. Et alors elle a dit, ah non, moi je ne peux pas monter sur les planches. Alors mon grand-père l'a traité de tout. Elle a dit, bon, ben, je serai souffleur. Elle l'a été pendant 30 ans.
Alors aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est
Juliette et Roméo.
Shakespeare.
Shakespeare, oui.
Mis en scène par
Mise en scène par Thibaut Regerbary, qui met en scène depuis quelques années dans notre théâtre et qui est même directeur artistique de ce théâtre. Vous voyez que Shakespeare attire tout de même la foule dans les Vosges. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens ici, en ce moment, dans cette salle, qui ne savent même pas qu'il y a Shakespeare.
Allô ? Seigneur des rats ! Vous voulez faire un tour ?
Que veux-tu de moi ?
Rien. Bon roi des chats, rien qu'une de vos sept vies.
Je suis à mon bon Mercutio, remettre mon épée. Annoncez qu'elle vienne vos lions et abattons leurs armes.
Shakespeare, au moins, c'est du spectacle. Cela exprime de beaux sentiments. On se bat, on vit, on meurt. À défaut de Maurice Potcher, n'y a-t-il plus d'auteurs populaires vivants? Thibaut Regerbary, pourquoi Shakespeare après Maurice Potcher?
Je n'ai pas connu le fondateur de ce théâtre, mais j'ai lu ses ouvrages. Et j'ai lu essentiellement ses ouvrages théoriques. Parce qu'il en a écrit. Il n'a pas écrit seulement des pièces, il a écrit un gros ouvrage théorique que je trouve d'une actualité remarquable et que j'essaye d'ailleurs de faire rééditer. Et il a osé s'attaquer non pas à ce qu'on appelle la culture un peu gnagna, c'est-à-dire non pas à remonter Molière, Racine, Corneille, ainsi de suite. Il a écrit une première pièce contre l'alcoolisme. Que cette pièce soit valable aujourd'hui ou pas, ça n'a aucune espèce d'importance. Mais cet homme-là, qui a 27 ans, avait le courage de monter dans ce village un théâtre, et le premier spectacle de ce théâtre était une pièce contre l'alcoolisme, eh bien je crois qu'en s'occupant de la politique d'aujourd'hui, en s'occupant de notre monde d'aujourd'hui, et en s'occupant pas des modes, mais de ce qui nous inquiète profondément, je crois que nous sommes davantage dans sa ligne qu'en suivant des fausses traditions.
Oui, ça me paraît assez juste ce que vous dites là, mais... Alors politiquement, vous vous engagez ou pas?
Eh bien écoutez, quand on touche un théâtre comme Shakespeare ou comme Potcher, je crois que forcément, on s'engage politiquement.
Est-ce que vous ne craignez pas en montant des pièces de Shakespeare aussi célèbres, aussi connues, de ne pas disposer des moyens suffisants à la fois dans la distribution des acteurs, que dans la présentation, la scénographie, etc. Et de faire tout de même un théâtre qui... peut-être trop ambitieux, ne soit pas exactement ce qu'il pourrait être.
Écoutez, d'abord, bon, j'ai des comparaisons. Je vais régulièrement à Londres, New York, Paris, ailleurs.
Oui.
Je ne crois pas que ça soit le cas, et d'une, mais ça c'est mon opinion. Deuxièmement...
C'est quand même un danger, non?
C'est un danger sans aucun doute, mais je préfère me casser la figure et faire casser la figure à toute cette équipe à cause de notre témérité. Qu'à cause de notre tiédeur.
Canon ou la maquerelle, quelque soit l'idée que je propose, tu prends. Cela dépend de mon appétit du moment. Il y a temps pour tout et gibier pour tous les instants.
Il faut donc se contenter des amours contrariés de Roméo et Juliette dans les Vosges. Et sans que le fond du théâtre s'ouvre vraiment sur la forêt comme autrefois. Dans un décor fermé, qui se veut contemporain.
Pourquoi y a-t-il des dessins de Léonard de Vinci dans le décor?
Eh bien, nous les avons opposés à Frangelico, bien sûr, de l'autre côté. Nous pensons que, enfin, Marie-Hélène Butel, la décoratrice, et moi-même, nous avons pensé que c'est une pièce qui décrit, comme pratiquement toutes les pièces de Shakespeare, une époque de transition entre le Moyen-Âge et la Renaissance. Et ce monde, ce vieux monde merveilleux d'ailleurs, que représente Frangelico, va être remplacé par Léonard, par la Renaissance, par cette lumière, finalement, qui vient, si vous avez remarqué, à travers les panneaux de la Renaissance.
Vous trouvez qu'il y a une coïncidence ou une concordance avec l'époque actuelle dans cette transition ?
Oh, sans aucun doute.
C'est ce
que j'ai voulu montrer, et c'est pour ça que j'ai choisi Shakespeare, ici. Parce que Shakespeare décrit une époque qui est comme la nôtre.
La musique, vous l'entendez, est elle aussi contemporaine. Elle est signée Pierre Magendie.
Elle traite d'une façon aussi expressive que possible les deux thèmes de la violence turbulente des jeunes dans Roméo et d'un autre côté la tendresse dans les scènes où elle prédomine. Je ne peux pas faire autrement que d'avoir un langage tout à fait actuel, mais je crois que on a pu accompagner sans choquer le spectacle pour le public tel que nous le connaissons.
Il y a de multiples versions de la tragédie de Shakespeare. Les Américains, quand ils ont présenté au grand public Roméo et Juliette, revu et corrigé dans West Side Story, ils sont allés carrément.
Life can be bright in America.
If you can fight in America.
Life is all right in America.
If you're all white in America. Oh.
Voilà, grosso modo, ce qui se passe aujourd'hui. Mais hier, en 1895, à Bussang, quand Maurice Potcher a eu l'idée de créer le Théâtre du Peuple, comment ça s'est-il passé ?
Mon oncle devait avoir 26 ans. Il avait fait du droit, et c'était un jeune poète, il avait des cheveux longs, un grand chapeau, il avait la belle cravate, il fréquentait les cafés du boulevard Saint-Michel, et il avait déjà publié un ou deux petits bouquins de vers. Et il passait sa vie dans les théâtres. Il adorait le théâtre. Et il a connu ma tante au théâtre de l'œuvre. Et je crois qu'à ce moment-là, lui, Marcel Schwab, j'en suis sûr, Henri Beaulieu, j'en suis sûr aussi, puis je ne sais plus encore d'autres qui sont venus, qui formaient un groupe, et ils avaient des conversations de bistrot. Ils avaient des conversations de bistrot et ils déploraient vraiment que le théâtre parisien soit de plus en plus artificiel et commercialisé, etc., etc. Romain Rolland participe à ces discussions, ça c'est très important. Romain Rolland semble avoir joué un très grand rôle dans cette affaire. Romain Rolland est à peu près de la même époque que mon oncle, un ou deux ans près. Et c'est là que mon oncle, petit à petit, a eu cette idée de dire « Mais pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un théâtre débarrassé des artifices parisiens ?»« Pourquoi pas, on peut le faire quand même. Hein » Et il a pensé à le faire ici, parce qu'il avait la place, parce qu'il y avait son père, qui était industriel et qui faisait de bonnes affaires, qui gagnait de l'argent, parce que mon grand-père était un homme qui avait l'esprit très large. Et certainement, quand son fils lui a dit « On va faire un théâtre qui s'appelle un théâtre populaire », je crois, d'après les lettres que j'ai trouvées, que mon grand-père a adhéré tout de suite. Il a dit « Ah, formidable !» Et alors, on a fait un théâtre très sommaire. Les gens étaient debout dans un pré, il n'y avait même pas de banc. Mais c'était sur les lieux mêmes où est le théâtre actuel. Et puis il y a eu un reportage fait par l'Illustration en 1896, où on voit le premier théâtre du peuple, qui est encore très simple, où il n'y a pas de coulisses. Et alors là, ils ont joué pour la première fois une pièce, mais comme mon oncle voulait un certain théâtre, il a écrit lui-même la pièce. Et la pièce est basée sur l'idée de l'alcoolisme. Mais comme mon oncle était aussi un poète, cette idée plaisait beaucoup à mon grand-père, l'alcoolisme, parce qu'ici, c'était effrayant. Le pays était imprégné par l'alcoolisme. La population était tout à fait laide. Les gens étaient laids, ils avaient des goitres, ils étaient affreux. Quoi. Il y avait des quantités d'idiots, de gens abrutis par l'alcool, c'est un fait certain. Ils buvaient d'autant plus, très important, que nous étions à la frontière. La frontière passait à 4 km de Bussang. Et sur la frontière, les douaniers allemands vendaient du schnapps, un schnapps prussien épouvantable fait avec de l'alcool de bois, et qui rendait les gens complètement fous. Et le litre de schnapps coûtait 10 sous. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, coûtait 10 sous. Alors le dimanche, les gens en promenade allaient au col de Bussang, qui était une heure à pied, et puis là, ils bavardaient avec des gardes frontières, avec des douaniers, et ils achetaient de l'alcool qui rentrait dans le village. Et ça donnait des résultats épouvantables. Alors mon grand-père a lutté contre ça, à sa manière.
Quelles idées politiques avait-il ?
Mon grand-père, dans les lettres que j'ai de lui, il dit lui-même qu'il est socialiste. Car il écrit tout ce qui lui passe par la tête, il l'écrit à ses fils. Et il leur écrit que ce qu'il vit à Bussang, car il vit avec ses ouvriers, ce n'est pas un patron parisien qui voit de temps en temps ce qui se passe, pas du tout. Il est là, dans le pays, et il va tous les jours dans son usine. Lui-même va voir ses ouvriers, il les connaît tous. Ils ont été ses copains de jeunesse, ses copains de communion, ses copains d'enfance, donc il les connaît tous. C'est un homme, pour moi, extraordinaire. Extraordinaire, et il l'a prouvé. Alors après, il a construit un hôpital, après il a fait une école maternelle, après, dans un petit patelin comme celui-là, il a fait des tas de choses. Il a fait venir le train jusqu'à Bussang, parce que Jules Ferry avait fait une campagne politique, c'est très long à vous raconter, je ne vous raconterai pas. Alors il avait fait appel à mon grand-père qui était maire. Et ils se sont connus, ils se sont estimés. Tous les deux s'estimaient beaucoup. Et grâce à Jules Ferry, et avec d'autres hommes du pays, alors il a obtenu que le chemin de fer soit prolongé jusque dans notre village. Et ensuite, il a fait campagne pour qu'on fasse une percée des Vosges, de manière à faciliter les échanges entre l'Alsace et nous. Vous savez, la barrière des Vosges, il y a une coupure entre le Haut-Rhin et nous. Cette coupure existe.
Elle est là, la ligne bleue ?
Bien sûr, elle est devant nous. Vous la voyez là-bas, la ligne bleue des Vosges.
Alors, un comédien comme vous, Jean Levray, avait entendu parler de ce théâtre du peuple ?
Ah oui, j'ai des souvenirs. Quand j'étais enfant et que j'allais dans le grenier lire en cachette les vieux numéros de l'Illustration, des reportages qui me fascinaient sur le théâtre de Bussang, où on voyait tous les gens du village qui se costumaient, qui se déguisaient avec des draps, des vieilles affaires, qui se mettaient des couronnes de feuillage ou de fleurs autour de la tête. Ça me fascinait parce que je ne pouvais pas imaginer les gens de mon village faire ça, bien sûr.
Vous voulez nous lire une scène un peu caractéristique de ce théâtre ?
Oui, volontiers. Oui. Une scène de foule, là.
Oui.
Oui. Alors, y a un personnage qui dit « Désobéir n'est jamais bon, mais sans médire, 20 coups de fouet pour un geste un peu vif, c'est dur. Pauvre garçon, d'autres, on comprend sa colère d'être accusé à tort. Il n'a pas mérité ce traitement. Non, non, non. Qu'est-ce donc nous sommes, des chiens ? Vous pensez donc qu'on vous prend pour des hommes ? Ah, elle a raison, la vieille. On en a plus qu'assez d'être traité ainsi, d'être tondu, rossé. Les nouveaux maîtres sont trop rudes, et leur clique est pire encore. » On n'en veut plus des coups de trique, il faut que ça cesse. Oui, oui, révoltons-nous. Coûte que coûte, il faut agir. Madeleine, une vieille femme, ah, pauvre fou, nos dos ont trop plié, nos peines sont trop vieilles, notre sort ne peut plus changer qu'avec la mort. Tout, si, si, il faut lutter. Entendons-nous d'abord. Méfions-nous, je vois là des oreilles qui nous écoutent. Allons ailleurs, près de Jean, pour lui montrer qu'on prend sa cause, en le vengeant.
Quelques jours déployant ton œil.
Est-ce vraiment si démodé, au palais de Gounod dans son Roméo et Juliette? Non, le texte de Maurice Potcher. Je ne crois pas. Je me suis tout de même posé la question de savoir ce que valait littérairement cet écrivain.
Maurice Potcher a été joué d'abord à Busan, puisque c'était son théâtre, et c'était là qu'il résidait, et c'était là qu'il était né. Et puis il a eu cette idée du théâtre du peuple. Quelques-unes de ses œuvres, écrites pour Busan, ont été jouées ailleurs qu'à Busan. Par exemple, Amis et Amil, qui est à mon avis une assez belle pièce, a été jouée à l'Odéon jadis. On a joué plus tard L'anneau de Sakuntala. Et puis on a joué une pièce que je trouve très belle, qui est assez courte, qui est très belle, qui a été jouée à la Comédie Française et qui s'appelle Molière et sa femme.
Alors comment le jugeait-on à son époque dans les milieux du théâtre et dans les milieux littéraires? Est-ce que vous le savez, ça?
Oui, je le sais un peu. Je crois que dans les milieux littéraires, on considérait que c'était un régionaliste attardé, enfin un homme qui... il faut vous dire que ce sont des jugements, à mon avis, très faux, que tous ceux qui disent ça, ce sont des gens qui ne sont jamais venus à Busan. Les gens de lettres, si vous voulez, qui n'étaient pas tout à fait aussi âgés que lui, qui avaient 10 ou 15 ans de moins, étaient parfois très sévères. Ils considéraient que c'était une espèce de poète attardé, dans un genre qui ne se faisait plus, qui ne se cultivait plus. Mais je me demande si, justement, c'était un genre qui n'était pas encore cultivé.
Oui.
Et les Parce qu'il avait tout de même inventé une forme de théâtre.
Alors, les gens de théâtre, justement, de son vivant.
Alors, les gens de théâtre de son vivant, sauf les gens du boulevard, mais je peux attester ici que des gens comme Antoine, comme Jules Renard, comme Gémier, comme Copeau, comme Jouvet, comme Dulin, avaient pour lui la plus haute considération. Et Jouvet me disait parfois, il m'a dit, « Attends donc, c'est un sacré boulot qu'il a fait à Busan. » Quant à Pitoïev, Madame Pitoïev est venue ici à Busan, il n'y a pas longtemps que je l'ai appris. Elle est venue en 1935. Et elle a envoyé une carte à Richard Wilm. Et c'est cette carte que nous avons retrouvée. Où elle dit qu'elle vient d'assister à une représentation de Busan, que c'est extraordinaire, qu'on ait pu faire dans un petit pays de campagne, comme celui-là, un spectacle aussi, aussi riche, aussi grandiose que l'anneau de Sakuntala.
Et vous, alors, Frédéric Potcher, vous pensez de Maurice Potcher sur le plan intellectuel, quoi aujourd'hui?
Évidemment, mon oncle est un homme de son temps. Il y a un certain nombre de pièces de lui que je n'aime pas, que je trouve tout à fait surannées, d'un genre qui est maintenant assez attardé, disons. Mais il y a d'autres pièces de lui que je trouve très belles.
Et quelle est la différence entre ces deux paquets de pièces que vous...
Eh bien, il y a, si vous voulez, un conformisme d'époque dans lequel mon oncle est tombé parfois, et qui ont fait que les œuvres écrites pendant cette période sont des œuvres qui aujourd'hui n'ont plus beaucoup de signification. Mais d'autres pièces qui sont beaucoup plus originales, comme par exemple Le Château de Hans, qui a des moments excellents et des moments qui sont peut-être un peu dépassés, mais qui a d'excellents moments, comme La Passion de Jeanne d'Arc, qui est une pièce tout à fait remarquable, à mon avis, tout à fait extraordinaire. Et puis dans ces comédies locales, il y a une comédie qui s'appelle Le lundi de la Pentecôte, qui est une pièce absolument charmante, mais absolument charmante, et qui n'a pas vieilli d'un cheveu. Et puis il y a d'autres pièces, comme Le Valet Noir, comme Jean de l'Ours, qui sont des pièces plus graves, plus solennelles, mais dans lesquelles il y a d'excellents moments. Voilà. Et puis alors, mon oncle était aussi un poète, ce que je ne voudrais pas qu'on oublie, c'est qu'il a été...
Je dirais surtout un poète.
Il a été surtout un poète, oui, et il avait incontestablement l'art d'écrire, il l'avait en lui, c'est certain. J'ai connu moi-même un poète encore vivant, et qui se croit un très grand poète, et qui m'a dit, en présence de Jean Villard, qui connaissait parfaitement l'œuvre de Maurice Potcher, qui m'a dit « Oh, pensez-vous, le théâtre du peuple, ça n'existe pas ». Moi, j'ai été horriblement vexé, j'ai pas besoin de vous le dire, mais ce monsieur est convaincu qu'il a raison.
Que reste-t-il de l'œuvre de Maurice Potcher dans la réalité de ce que nous voyons aujourd'hui, Shakespeare compris? Essentiellement des amateurs sur la scène, des gens du pays qui continuent de jouer la comédie comme autrefois.
Vous connaissez ces acteurs?
Oui, celui qui est en vert, qui joue un des Montaigu, c'est monsieur Gilbert Vincent, qui est instituteur à Busan. L'autre, celui qui tire son épée, voyez en ce moment là, c'est Thibaut Regervary lui-même, le metteur en scène. Il a décidé de jouer ce petit rôle, il le joue d'ailleurs très bien.
Il y a donc un mélange de professionnels et d'amateurs.
Oui, c'est très important, ça. Il y a un mélange de professionnels et d'amateurs qui donne quelquefois de très très bons résultats. Mais ça demande un travail de préparation et d'assimilation très difficile.
Je ne sais pas si vous voyez, le fond de la scène est ouvert en partie. Et ce que vous voyez derrière, c'est la vraie nature. C'est le fond du théâtre qui est ouvert. Vous voyez le soleil sur la prairie qui est en face. Quelquefois, on ouvre complètement le fond du théâtre. Et le soleil, le vrai soleil, vient jusqu'au milieu de la scène. Autour de cette scène, on met des arbres, on met de la mousse, on fait même couler des fontaines.
Est-ce que tout le monde est connu? Est-ce qu'on sait qui joue parmi ceux qui ne sont pas des acteurs?
Non, je dois vous dire la vérité. Il y a parmi les gens qui sont en ce moment même sur la scène un acteur qui est un amateur, un excellent amateur du reste, qui joue incognito. Il ne doit pas jouer, il ne doit pas monter sur une scène. Eh bien, il y vient quand même. Le rôle de la nourrice, cette plantureuse. Qui a de l'expression, est intendante de l'hôpital de Bussan, de l'hôpital rural de Bussan. Elle passe sa vie avec les vieux et les enfants. C'est une remarquable comédienne. Et c'est ma tante, Madame Maurice Potcher, qui lui a appris à parler, à marcher, à s'asseoir, à se tenir sur une scène.
Le metteur en scène actuel, Tibor Eguervary, reconnaît volontiers ce que lui apportent les amateurs.
Nous ne prenons pas des amateurs seulement pour des figurations, mais nous prenons des amateurs pour des rôles principaux. Dans ce spectacle, la nourrice, par exemple, est une amateur.
Eh, très bien, oui.
Et dans le spectacle que nous préparons, le duc, c'est-à-dire le rôle principal, le rôle le plus écrasant, est joué par un amateur, celui que vous venez d'entendre.
Oui. Alors les amateurs, qu'est-ce qu'ils vous apportent?
Eh bien, il m'apporte d'abord, je ne dirais pas une fraîcheur, parce que je déteste ce mot-là, mais... Il m'apporte quelque chose de tout à fait inhabituel dans le théâtre, un courage que les professionnels n'ont plus. C'est-à-dire, moi, je meurs de trac quand il faut remplacer quelqu'un dans trois lignes. Eh bien, l'amateur meurt de trac aussi, mais pas de la même façon. Il se lance sur le plateau et il fait ça avec un courage qui est peut-être de la témérité. Et il m'apporte cette témérité-là.
Oui.
Et je dois dire que travailler à la fois avec la prudence et le métier des professionnels et la témérité des amateurs est une expérience tout à fait enrichissante.
Cette sonnerie de trompette appelle les habitants du village de Bussan dans les Vosges et les touristes venus des environs en car et en voiture à assister à la représentation du Théâtre du Peuple. Ce n'est plus son fondateur Maurice Potcher, le poète, que l'on joue, mais un Shakespeare remis à la mode du jour, une relecture comme on dit maintenant. Mesure pour mesure cette semaine, transposée en 1920 à Vienne, parce que, selon le metteur en scène Tibor Eguervary, cette comédie dramatique écrite en 1604 exprime la montée du fascisme. Je ne suis pas sûr que les spectateurs des Vosges l'entendent ainsi, mais c'est ce que l'on voit désormais partout, en Avignon, Molière corrigé par Vitesse, à Carcassonne, Denis Lorca réécrivant à sa façon Shakespeare lui aussi, alors pourquoi pas à Bussang? Quoi qu'en disent les organisateurs, cela ne me paraît pas dans l'esprit du fondateur du Théâtre du Peuple. Ils ont tout de même conservé l'essentiel, et c'est ça qui est important. C'est un amateur qui joue le rôle principal de Mesure pour Mesure, celui du duc.
Je m'appelle André Liénard, je suis vosgien, et je suis le président de l'association du Théâtre du Peuple.
Oui.
C'est-à-dire que cette association-là s'est formée, elle s'est restructurée, après le décès du fondateur, Maurice Potcher, qui lui-même, de son vivant, avait tout de même la main mise sur l'organisation et le fonctionnement, assisté qu'il était par des tas d'amis, Mais enfin, il a fallu après, surtout après le retrait d'animateur que fut Pierre-Richard Wilmes, que les continuateurs s'organisent d'une façon plus précise. Je suis profondément persuadé que l'esprit, si vous voulez, ce qu'on appelle nous ici l'esprit de Bussan, l'esprit du théâtre du peuple tel qu'il a été conçu par son fondateur, n'est pas quelque chose de dépassé. C'est simplement la conception d'un homme qui a voulu que le théâtre, le bon théâtre, le beau théâtre, dans ce qu'il a écrit d'ailleurs, il l'a très bien défini, soit toujours accessible à l'ensemble du peuple dans son appellation la plus digne, la plus totale. Il faut que tous ceux qui puissent venir ici se sentent émus à des titres divers par la beauté de ce qu'on leur présente, par la signification. Si vous voulez, on aurait peur actuellement de parler de grands sentiments. Mais malgré tout, dans l'âme humaine, il y a des choses qui, pour nous, sont irremplaçables et que l'on doit pouvoir traduire à tous les publics.
Quel est votre métier ?
Je suis comptable agréé à Épinal.
Revenons à Roméo et Juliette, le spectacle que nous avons vu la semaine dernière, la scène du balcon.
Madame, je jure par cette lune.
Ne jure pas par la lune, inconstante et variable.
Mais par quoi dois-je jurer ?
Ne jure pas du tout.
Roméo est joué par un acteur canadien, le metteur en scène et professeur à Ottawa. Juliette, elle, est une actrice qui vit aussi au Canada. Elle a du charme.
Je ne puis goûter cette nuit toutes les joies de notre rapprochement. Il est trop imprévu, trop subit. Doux amis, bonne nuit. Puisse le repos, puisse le calme délicieux qui m'envahit, vivez à ton cœur.
Vas-tu me laisser si peu satisfait ?
Que veux-tu de plus de cette nuit ?
Le solennel échange de ton amour contre le mien.
Mon amour ? Je te l'ai donné avant que tu l'aies demandé. Et je voudrais qu'il fût encore à donner.
Voudrais-tu me le retirer ? Et pour quelle raison ?
Pour te le redonner. Mais je désire un bonheur que j'ai déjà. Mon désir est illimité comme la mer et mon amour aussi profond. Plus je te donne, plus il me reste à te donner, car l'un et l'autre sont infinis.
Madame !
J'entends du bruit. Je viens, bonne nourrice ! Doux, Montaigu, sois fidèle. Attends un moment, je vais revenir.
Frédéric Potcher, qui assiste à la représentation avec nous, se souvient de la belle époque où la réputation du théâtre du peuple attirait à Bussang les plus grands noms du théâtre. Parmi eux, Antoine.
Il est venu avec Jules Renard. Et le dimanche après-midi, le samedi plutôt après-midi, ils ont vu jouer Poil de Carotte par une troupe de professionnels. Jules Renard étant assis à côté de Antoine. Et Jules Renard raconte dans son journal ce qu'a été pour lui cette représentation. Il paraît qu'il a plu, qu'il y a eu du vent, que le vélome qui était tendu au-dessus des spectateurs a failli s'envoler. Ça a été tout à fait étonnant. Et puis alors, après avoir vu jouer Poil de Carotte, Jules Renard a vu jouer le lendemain dimanche un drame terrible, une espèce de drame épouvantable.
Paysan ?
Qui était basé, oui, sur un fait divers qui s'était produit dans la région. Ce fait divers a existé, on en trouve la trace dans les journaux. C'est un type qui a mis le feu à sa ferme dans des conditions atroces, enfin. Et il y a des personnages qui sont terribles. Il y a une vieille femme qui est une espèce de sorcière horrible. Et c'était ma tante qui jouait ce rôle formidablement bien. Enfin, c'était bouleversant. Et il y a un personnage d'homme faible. Le mari est un faible, un type qui n'a pas beaucoup de caractère, qui est un peu trop tendre. Et c'était mon père qui jouait ce rôle-là. Alors ça faisait un duo terrifiant. Et alors à la fin, la ferme brûle. Et il y avait ce jour-là, pendant la présentation, à laquelle ont assisté Jules Renard et Antoine, et ils ont été très touchés, tous les deux, très émus, il y avait dans la salle des Américains, et notamment un journaliste américain, qui était un gars très connu en Amérique, mais que personne ne connaissait ici. Il avait eu vent de ce théâtre, il avait voulu venir le voir. Et figurez-vous qu'à la fin, la ferme prend feu sur la scène, elle a tellement bien pris feu que le théâtre avait flambé. Alors l'Américain a cru que tout ça s'était combiné d'avance. Et il a été absolument stupéfait. Jouvet est venu en 1921 jouer les Fabrice Capin. Et il jouait le rôle de Géronte. C'était un, extraordinaire, cette espèce de bonhomme en vert. Il était verdâtre. Il avait une espèce de... Il avait des jambes torses, vous savez, vertes. Il avait une ombrelle verte, un vert sale, comme ça. Il avait une espèce de tête grise avec ses gros yeux ronds. Il avait quelque chose d'affolant, d'inquiétant. Et moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai trouvé Jouvet tellement admirable, je suis véritablement tombé amoureux de Jouvet. Et je suis allé voir Jouvet à Paris, moi j'étais très jeune, et je lui ai dit, je voudrais faire du théâtre. Alors il m'a parlé de Bussan, lui. Il m'a dit que c'était un théâtre extraordinaire, qu'il n'avait jamais vu ça. Et que pour lui, c'était quelque chose qui était dans ses souvenirs et qui resterait, m'a-t-il dit, je pense que c'est vrai, qui resterait jusqu'à la fin de ses jours.
Et vous avez joué, vous, sur cette scène, alors, ici ?
Oh, ben moi, j'ai joué dans le Sauterelle de Noël, j'ai joué dans le Lundi de la Pentecôte, j'ai joué dans Théfré Griot, j'ai joué dans le Diable Marchand de Gouttes, j'ai joué dans toutes ces pièces-là.
Dans toutes les pièces de votre...
Ah oui, à peu près toutes, pas toutes, parce qu'il y en avait dans lesquelles il n'y avait pas de rôle pour moi, mais j'ai joué dans presque toutes. Jouvet m'avait tellement impressionné dans Géronte que moi, je voulais tout le temps jouer Géronte. C'était un rôle qui m'obsédait, littéralement. Oui. Et c'est pour ça qu'on m'a fait jouer dans dans les Caprices de Marianne, on m'a fait jouer le rôle du vieux Claudio. Oui. Et qui jouait Marianne ? Ah, je vais vous le dire, ma sœur.
Ah bon ?
Elle était parfaite. Et il paraît que nous étions très drôles l'un et l'autre. Et c'est là, un jour, que j'ai fait un pataquès fantastique. Au lieu de dire, je ne sais pas, je suis le vieux vieillard, au lieu de dire à Marianne, « Prenez garde, Marianne, songez à ce que vous faites. Et ne me poussez pas à quelque fâcheuse extrémité par vos extravagances. » Au lieu de dire ça, j'ai dit, « Faites attention, Marianne, et ne me poussez pas à quelque fâcheuse extravagance par vos extrémités. »
Pour connaître le théâtre de Maurice Potcher, j'ai ouvert la porte de la bibliothèque de son neveu Frédéric. Et en feuilletant les ouvrages, je me suis aperçu que le personnage principal de Potcher, eh bien, c'était au fond la forêt des Vosges, les sapins, et des personnages qu'on pourrait dire presque des écologistes aujourd'hui, c'est-à-dire des personnages qui aiment la nature et les animaux. L'un d'eux, Hans, de la pièce Le Château de Hans, construit par exemple un pont pour faire passer des fourmis. Alors, on dit, tu leur construis des ponts romains, à combien d'arches, Jean Levray ?
Une branchette, un employé suffit. La ville entière émigrait. Oui, je sais leur gîte. Depuis qu'on a fait une coupe à cet endroit, pluie et soleil troublaient la pauvre fourmilière. Trois fois le vent l'a saccagée. Il fallait fuir. Toute la troupe, trottinant en longue file, cherchait là-bas, dans le hallier, un abri sûr. Mais le ruisseau soudain arrête l'avant-garde. Grand désarroi. Ce n'est qu'un mince filet d'eau, mais voilà mes petites gens en grande peine. Les chefs couraient, se concertaient, frottaient leur nez l'un contre l'autre. Et plus loin, le gros de la troupe se bousculait. Mais qu'est-ce que c'est ? Avancez donc ! Plus d'un soldat dut se noyer dans le tumulte. Tous s'obstinaient à passer quand même. Alors moi, qu'ai-je trouvé pour les aider dans leur détresse ? J'ai seulement poussé sans bruit, d'un doigt discret pour ne pas trop effaroucher les noires dames, un bout d'écorce qui traînait au bord de l'eau. Voilà le pont et les deux rives réunies. Et c'est ainsi que le petit peuple a passé.
C'est une belle histoire d'amour que celle du Théâtre du Peuple. Un jeune poète vosgien se rend à Paris. Il y rencontre une actrice qui jouait la Dame de la Mer d'Ibsen. Il en tombe amoureux, l'épouse, la ramène dans son pays, à Bussang. Et pour elle, il construit un théâtre. C'est elle que ses amis, que le village surnomme Tante Cam, elle qui apprendra aux habitants à marcher, parler, rire et pleurer, bref, à jouer la comédie.
Ma tante était vraiment une actrice. Elle avait un tempérament d'actrice et elle vivait comme une actrice. Un jour, elle venait de jouer, je crois, Macbeth, ici, il y a déjà bien longtemps, et dans la salle se trouvait Suzanne Després. Et Suzanne Després, qui était Madame Luniepo, était une amie de jeunesse. Elles avaient fait le conservatoire ensemble. Et puis, elles ne s'étaient pas vues depuis une dizaine d'années. Suzanne Després est dans la salle. Et ma tante, à la fin de la pièce, on relève le rideau pour boire un coup sur la scène. Et ma tante apparaît dans sa robe de Macbeth, avec un fume-cigarette immense. Et elle voit, à l'autre bout de la scène, elle voit arriver sa vieille amie, Suzanne Després. C'était fantastique. La première, ma tante, a dit, en tendant les bras, « Mon passé ». Et l'autre a répondu à l'autre bout du théâtre, « Ma jeunesse ». Vous croyez que c'est pas merveilleux?
Le Théâtre du Peuple de Bussang a été au début de ce siècle un grand moment dans l'histoire du théâtre mondial. Je connais vos travaux, écrit Tolstoï à Maurice Potcher. Je les admire. Je suis pleinement convaincu que vous réussirez. Vous aurez une grande et bienfaisante influence sur la régénération du théâtre qui de jour en jour devient un amusement pour les oisifs et se détourne de plus en plus de sa véritable destination. Et Antoine, le grand Antoine, le fondateur du Théâtre Libre, le directeur de l'Odéon. Il serait bien injuste de ne pas célébrer le théâtre de Bussang qui, en 1895, donne le signal d'une renaissance gagnant toutes les provinces françaises. J'ajouterai, moi, le signal de la décentralisation voulue par Malraux et réalisée par Jeanne Laurent. Une dernière citation, André Suarez, le mystique. Il a écrit ceci. « Maurice Potcher, le premier, a fait passer dans l'action ce que Michelet appelait un rêve. » Et tout cela disparaîtrait, serait relégué au musée, tandis que le merveilleux théâtre de Bussang, cet immense chalet en bois dont la Seine souffle sur la forêt vosgienne, serait livré à la mode et aux folies. Depuis que je connais ce théâtre, j'en aurais personnellement beaucoup de peine. Heureusement, il y a un espoir. Le ministère des Affaires culturelles s'intéresse à Bussang, à l'héritage de Maurice Potcher. Son représentant à Metz, René Gaché, a entrepris de sauver Bussang. Pour commencer, le théâtre a été classé monument historique. Personne ne peut plus le démolir physiquement, mais toucher à son âme.
C'est le premier monument classé depuis que la direction régionale existe en Lorraine, la direction régionale des affaires culturelles.
C'est vous qui avez voulu le classer, autrement dit?
Ah ben, non, la procédure avait été engagée avant moi, j'ai peut-être un peu fait accélérer, mais j'en suis très très fier.
Alors décrivez-le moi ce monument, qu'est-ce que c'est? Quelle importance a-t-il et qu'est-ce que c'est?
Il a moins une importance architecturale à proprement parler, bien que ce soit un lieu assez fabuleux. Une acoustique extraordinaire, 1200 places, mais très honnêtement, on y crève de froid. Hein, ça, c'est un... Pas aujourd'hui, je reconnais, mais en temps normal, enfin, on ne peut pas jouer le soir, par exemple, on ne peut pas jouer en dehors des mois de juillet et d'août. D'autre part, il y a cette trouvaille fabuleuse qui est l'ouverture du fond de la Seine.
Qui sur la montagne.
Sur la montagne et sur la forêt, et qui est extraordinaire. Il faut avoir vu le château de Hans de Maurice Potcher là-dedans, où vous avez un arbre qui tombe, c'est le même arbre qui tombe depuis 80 ans, et on y croit à fond. Moi, je crois, enfin, je pleure, je ris, enfin, je suis très, très ravi quand je vois cela. Et c'est vraiment... Alors, bien sûr, c'est donc... Sur le plan architectural, donc c'est quand même pas, ça n'aurait pas suffi à justifier un classement. Mais ce qui justifie le classement, comme le prévoit la loi de 1913, c'est que vraiment c'est un monument historique qui fait partie de l'histoire de notre culture. En fait, c'est vraiment le haut lieu de la culture populaire en France et d'une véritable culture populaire. Ça s'appelle le théâtre du peuple. Alors maintenant, il y a, je crois, plusieurs problèmes. Il y a un problème. Le premier, je crois, c'est que Maurice Potcher est mort et que il s'est un peu mythifié, c'est évident. Et comme tout mythe, ben, ça a des avantages et des inconvénients, en particulier que vous avez un certain fidéisme chez certains qui voudraient qu'on refasse exactement ce qu'a fait Maurice Potcher, ce qui n'est pas possible. Par contre, il a écrit un répertoire spécialement pour Bussang, et ce répertoire est à garder, à jouer, quitte à l'actualiser. Un certain nombre des pièces de Maurice Potcher, pas toutes, sont toujours jouables. Bon, qu'il y a d'autre part un répertoire à trouver ou à affirmer, dans un contexte français. Je ne veux pas être chauvin. Je
vous
ne suis
voyez
pas...
qui? Vous voyez qui? Vous voyez Claudel?
Pas tout Claudel, mais je suis convaincu, bien que je sois en désaccord avec Frédéric Potcher là-dessus, que l'annonce faite à Marie aurait sa place dans ce théâtre. Ce que prévoyait déjà Romain Rolland dans son livre sur le théâtre populaire pourrait marcher. Je veux dire que, par exemple, le Volpone passerait ici. Bien. Oui. Il y a un certain nombre de textes qui peuvent passer. de oui. ce genre. Sans, dis pas, le site peut-être pas, il faudrait des acteurs extraordinaires, mais il y a, je crois, un répertoire réellement populaire qui demande un grand plateau et qui demande qui touche des idées simples.
Il y a aussi à conserver toute une tradition, et ça, je crois que vous y pensez.
Eh bien, je crois que la deuxième tradition, qui se perd un petit peu en ce moment, et ça me semble grave, c'est la tradition amateur. Je crois que ça a été profondément un théâtre amateur, d'amateurs très formés. Je veux dire que ce soit Tante Cam, la femme de Maurice Potcher, ou que ce soit Pierre-Richard Wynne, ils ont utilisé des amateurs, mais en les formant. Et on a pu voir, par exemple, aujourd'hui, que parmi les comédiens, les meilleurs n'étaient pas toujours les professionnels, loin de là.
Oui, d'autre part... La directrice de l'hôpital était parfaite.
Extraordinaire. C'est une extraordinaire nourrice. Ah oui, je l'ai embrassée à la sortie. Vraiment très bon cœur. Bon, mais seulement... c'est un peu absurde à dire, mais je crois que c'est très vrai. Parce que, d'autre part, ce théâtre... Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas que les professionnels jouent. C'est pas ça. Pierre-Richard Wynne jouait. Un petit détail. Lorsque Pierre-Richard Wynne jouait, pendant des années, son nom n'a pas paru sur l'affiche. Et ça me semble très important. Oui, oui. Actuellement, tout le monde est sur l'affiche. C'est bien, mais je le regrette, j'avoue. Oui. Et je crois que ce qu'il faut, une des choses à laquelle je m'attache et à laquelle l'État s'attache, c'est qu'il faut qu'on en revienne en particulier à une formation de comédien amateur qui puisse être distribuée dans les pièces du Théâtre du Peuple. De vrais amateurs de la région en particulier, enfin essentiellement bien sûr. Nous sommes au bord de mettre en place un projet qui, je pense, sera accepté par le Fonds d'intervention culturelle, qui est la création à Bussang d'un centre de documentation sur le théâtre du peuple. Un centre de documentation de deux points de vue. D'une part, les archives, même simplement du théâtre du peuple, sont en train malgré tout de disparaître un peu. Je veux dire que les cartes postales sont vendues de plus en plus chères, c'est vrai, mais enfin elles se vendent quand même. Et c'est dommage, les cartes postales d'époque. Il y a un certain nombre de documents qu'il faut se dépêcher de réunir. Et d'autre part, il y a une mémoire collective à consulter.
C'était Festival au village, Bussang dans les Vosges, par Jacques Florent. Réalisation Brigitte Bouvier, première diffusion sur France Culture le 12 août 1972. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.
My men who could ask for anything more. I got daisies in green pastures. I got my men who could ask for anything more. Home and trouble, I don't mind them. You won't find them round my door. But I got starlight, I got sweet dreams. I got my men who could ask for anything more. Who could ask for anything more? Put up pay and daily E I up daily D Fifth for pay and daily O I up the day Shavon pay for all you daily daily E I and daily O I all you hit you see But whatever you do for fire daily I die oh oh I die you die She would have up and daily the pop do pop up and day I pop up all you do I E I daddy E I pay for day and daily I I got my men who could ask for anything more. I got daisies in green pastures. I got my man who could ask for anything more. Home and travel, I don't mind them. You won't find them all around my door. I got starlight, I got sweet dreams. I got my man who could ask for anything more. Who could ask for anything more?